les faits, on lâche sur les salaires quand la résistance ouvrière devient trop forte. Exemple, ce qui s'est passé en 1968. On a accordé des augmentations de salaires substantielles, qui dépassaient, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin plus de 10%, et finalement, tout cela a été rogné par l'inflation en quelques mois. Et parallèlement, on faisait des cadeaux absolument inouïs aux entreprises. C'est-à-dire que ce qui pouvait être à l'origine de la baisse du taux de profit des entreprises en payant des salaires plus élevés a été à la fois rogné par l'inflation et en même temps, on a dégrevé les entreprises sur le plan fiscal, notamment en supprimant toute une série de taxes sur les salaires. Et ceci a bien sûr eu des conséquences certaines sur les équipements collectifs qui n'ont pas été financés puisqu'il y avait moins d'argent rentrant dans les caisses de l'État. Donc l'inflation donne une relative souplesse au système, on lâche sur les salaires quand la résistance ouvrière devient trop importante. Et ensuite on récupère en augmentant les cadences et en automatisant davantage. Et on finit par stabiliser au nom des équilibres économiques et de l'intérêt général. Alors, c'est le plan de stabilisation en 1963 et c'est le plan de refroidissement de Fourcade en 1974 qui a été plus ou moins assoupli au courant de cette année pour les raisons que vous connaissez. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à ce que prétend le gouvernement, il est clair qu'il ne va pas se traduire par une diminution du chômage, tout au contraire. Je vous renvoie là aux dernières prévisions de l'OCDE en la matière. Eh bien, l'OCDE confirme les prévisions que nous vous donnons depuis des mois dans Tribune Socialiste, savoir que le chômage, loin de diminuer, va constamment augmenter jusqu'à la fin 1976. L'objectif du gouvernement est simplement peut-être de ralentir l'augmentation du chômage, mais en tout état de cause, d'habituer les gens à un niveau de chômage extrêmement fort et qui, en tout état de cause, dépassera le seuil de 1 million de personnes. C'est aussi, deuxième point, le développement et surtout la transformation des luttes anticapitalistes et anti-impérialistes qui entraînent le dérèglement du système lui-même. Et c'est la raison pour laquelle l'inflation, qui jusqu'alors permettait de rééquilibrer en quelque sorte le système, ne permet plus aujourd'hui de résoudre les contradictions du capitalisme, et au contraire, on peut dire qu'elle les accentue. Et c'est bien la raison pour laquelle le gouvernement, et Fourcade en tête, continue à déclarer contre vents et marées que l'inflation est la plaie des plaies. On a assisté ces dernières années, vous le savez, à un développement et à une véritable transformation des luttes ouvrières dans les métropoles capitalistes. La contestation de la division sociale du travail est de plus en plus forte. Il s'agit de la remise en cause des cadences, de la remise en cause de la parcellisation du travail, de la remise en cause également de la division de la classe ouvrière. Ce sont les luttes femmes, des immigrés. Et puis il y a maintenant même remise en cause du système de consommation et du système d'existence. Et il est bien évident que ces nouvelles formes de contestation ne sont plus récupérables par l'inflation. Les gens s'en foutent pas mal, à la limite, de gagner davantage. Ne schématisons pas trop, ne disons pas que c'est une situation générale. Disons simplement que nous sommes à une étape nouvelle où commencent à émerger des formes de lutte significatives qui remettent en cause la partialisation et qui s'attachent moins que durant la période précédente aux augmentations de salaire. Car, vous le savez, la classe ouvrière reste fondamentalement attachée, en grande partie, à des augmentations de salaire. Ce qui nous intéresse, c'est l'émergence de nouvelles formes de lutte et, ce qui est clair, c'est que ces nouvelles formes de lutte ne sont plus récupérables par les mécanismes traditionnels et notamment par l'utilisation de l'inflation. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui se conjuguer la poursuite nécessaire de l'inflation dans certains secteurs, dans les secteurs où la classe ouvrière est précisément sensible à ce genre d'arguments, et le développement du chômage nécessaire pour briser les luttes ouvrières et restructurer, redéployer, comme disent les responsables économiques actuels, l'appareil de production. La bourgeoisie sait bien que sans défaite, elle ne parviendra pas à maintenir les conditions de reproduction de son système. D'où une gradation des solutions qui vont du chômage à la répression en attendant un nouveau fascisme. Et là encore, les prévisions que nous avons faites depuis une année sont parfaitement confirmées. Je vous renvoie au développement de la répression actuelle. Vous me direz, je ne vois pas ce que ça vient faire avec un topo sur l'inflation. Je crois que ça a une certaine relation. Car par-delà l'information contre X ouverte par la Cour de sûreté de l'État contre les tentatives de soi-disant démoralisation de l'armée, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que soit remise en cause une organisation de masse en tant que telle, comme la CFDT. Bon, on est très excité et on a raison sur l'emprisonnement de nos camarades, mais il faut voir aussi les atteintes de plus en plus vives, de plus en plus violentes du patronat à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise. Au nombre de militants qui se font arrêter pour des vétis au caractère exorbitant des indemnités qui sont demandées également aux syndicats après une grève. Je confère les indemnités demandées par la Régie Renault, par exemple, aux syndicats qui ont mené la grève du début de cette année. Pour des vétis, les militants se retrouvent au commissariat, ennuyés, voire inculpés, comme ça a été le cas encore la semaine dernière à Dole, où des employés qui ont retenu pendant deux ou trois heures le directeur de leur boîte sont aujourd'hui inculpés de tentative d'homicide parce que le directeur était soi-disant cardiaque. On assiste aujourd'hui, et d'une manière très consciente, à une politique qui est menée sciemment par le gouvernement de répression de plus en plus importante du mouvement syndical. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la bourgeoisie n'a d'autre objectif que de briser le mouvement ouvrier. C'est le seul moyen dont elle dispose pour sortir de la crise et imposer ses solutions. Bon, parallèlement à ces résistances internes, et cela est très vrai en France, cela est vrai aussi en Italie, eh bien on a assisté durant ces dernières années au développement de ce qu'on a pu appeler des contradictions inter-impérialistes et anti-impérialistes. Le refus des bourgeoisies nationales des classes ouvrières, nationales, et l'accentuation de l'exploitation ont conduit les bourgeoisies nationales à s'affronter avec l'impérialisme dominant sur le marché mondial, à la fois des marchandises et des capitaux. Ça aussi, c'est une cause fondamentale de crise. Et enfin, il y a eu développement considérable de la résistance des peuples opprimés à la périphérie et l'apparition de pôles impérialistes secondaires. On assiste, si vous voulez, à la répartition à la périphérie de certaines industries en réponse au pillage du tiers-monde des pays sous-développés. Et cette évolution suscite à la fois des luttes de résistance populaire et l'apparition en même temps de bourgeoisies plus ou moins autonomes. C'est le cas en Iran, c'est le cas en Algérie et ailleurs. Mais là encore, le maintien du système suppose que les hiérarchies soient confirmées par une victoire politique, voire militaire, de l'impérialisme. Alors, en définitive, je crois que la conférence Nord-Sud illustre parfaitement cette réalité. Si vous avez un peu suivi le débat qui s'est instauré à cette conférence depuis le début de cette semaine. En conclusion, je crois qu'on est entré aujourd'hui dans une très grande ère d'instabilité où l'inflation se conjugue avec le chômage et où s'accentuent les tensions entre classes et les tensions entre pays. Je crois que ce qui caractérise fondamentalement la période actuelle, et notamment la politique d'austérité du gouvernement, c'est que ce dernier, encore une fois, ne peut plus fuir en avant comme il l'a fait après 1968. Fuir en avant notamment, par exemple, en s'opposant à la baisse du taux de profit des entreprises par le biais de la fiscalité. Il continue, si vous voulez, à le faire, l'augmentation des charges pour la sécurité sociale, par exemple. On constate que ce sont les salariés qui vont encore une fois supporter le déficit de cette sécurité sociale. On a fait des cadeaux sous forme de remises d'impôts aux entreprises, aucun cadeau de cette nature aux particuliers. Si vous voulez, il continue à pratiquer la politique antérieure, mais ce que je veux dire, c'est que cette politique n'est plus suffisante, que par conséquent, il faut aller plus loin. Il ne peut plus se contenter de fuir en avant. Il est temps de franchir l'obstacle. Et l'obstacle, bien sûr, est de taille. En d'autres termes, il lui faut affronter directement les salariés et leur imposer un autre mode de fixation des salaires, au besoin autoritairement. Alors tout dépend, bien sûr, de la capacité de riposte du mouvement ouvrier. Et, encore une fois, on comprend mieux pourquoi il s'attaque aujourd'hui ouvertement, par le biais d'une information contre X, à une organisation de masse, ça c'est très important, comme la CFDT. Je vous signale en passant qu'il y a un projet qui ne fait que confirmer cette analyse. Il existe un projet de loi qui a été concocté par Durafour et qui prévoit la suppression de la représentativité syndicale au premier tour des élections professionnelles. Vous savez que pour toutes les élections professionnelles, c'est-à-dire élections à la fois des délégués du personnel et des délégués du personnel au comité d'entreprise, il s'agit d'un scrutin proportionnel et les listes qui sont présentées au premier tour ne sont toujours des listes représentées par les syndicats les plus représentatifs. Or, nous savons que Durafour a concocté un projet consistant tout simplement à supprimer la représentativité syndicale et à permettre à n'importe quel syndicat bidon, marron et tout ce que vous voudrez, de se présenter dès le premier tour. Encore, c'est une attaque directe contre le mouvement ouvrier tel qu'il existe aujourd'hui. Pour finir, il est bien évident que l'effondrement du système capitaliste n'est pas inscrit dans la nature des choses. Et il ne va pas tomber comme ça de lui-même, comme un fruit mûr. Il ne faut pas attendre comme ça les bras croisés que ce soit l'apocalypse définitive et puis comme ça ensuite nous nous installerons au pouvoir. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les facultés d'adaptation du système sont tout à fait considérables. La crise n'est qu'un moment particulier de l'affrontement auquel se livre une bourgeoisie qui, il faut bien l'avouer, est encore dominante et un prolétariat encore dominé, celui-ci luttant pour assurer sa propre hégémonie. Je crois que ce moment est essentiellement caractérisé par le fait qu'aucune des classes antagonistes, les classes dominantes d'un côté, la classe ouvrière de l'autre, aucune des classes antagonistes ne peut faire prévaloir ses intérêts et donc résoudre l'affrontement à son avantage. Je veux dire par là que la crise me paraît encore ouverte. Mais je crois aussi que depuis un an, nous avons perdu beaucoup de temps. Je dis nous, quand je dis nous, ça veut dire non seulement nous, mais l'ensemble du mouvement ouvrier en France. Car il faut bien voir que Giscard a appliqué sans grande difficulté sa politique économique, sans grande réaction, sans grande riposte du mouvement ouvrier. Et j'ajoute que le coin enfoncé récemment dans l'unité de la gauche par le gouvernement au sujet de l'armée, eh bien ce coin est en train de se transformer en un véritable mur. Et il s'agissait d'un coin dans une unité qui était déjà passablement chancelante. On apprend aujourd'hui que nos camarades du PC ne sont pas des inconditionnels de la solidarité ouvrière. Où va-t-on à ce train-là? Je crois que le gouvernement n'ignore pas qu'on peut tout faire avec des baïonnettes. Et il s'en servira. On peut tout faire avec des baïonnettes. Mais je dirais, en guise de boutade, que on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Alors, encore faudrait-il que la gauche ne ressemble pas à une espèce de carpette et qu'elle soit véritablement... qu'elle lui offre des baïonnettes au gouvernement. Bien, ce sera ma transition avant le débat qui, si vous voulez, pourra s'instaurer maintenant. Oui. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Votre camarade m'a demandé si cette crise était destinée à durer plusieurs années et si on pouvait en profiter. Ou alors si c'était une crise conjoncturelle. Enfin, savoir si c'était une crise structurelle, une crise conjoncturelle. Bon. Alors, bon, c'est un débat qui est ouvert, mais nous, on pense que c'est une crise qui va durer de nombreuses années et qui va se traduire notamment, comme je le disais tout à l'heure, par une augmentation encore importante du chômage. Tout le problème est de savoir quelle sera la capacité de riposte de la classe ouvrière pour empêcher les solutions, que s'imposent les solutions que tentent de mettre en place dans le cadre du redéploiement les différentes bourgeoisies nationales. Alors, dire qu'on va profiter de la crise, je crois que c'est pas aussi simple que cela, malheureusement. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de se demander quels sont finalement les terrains de lutte sur lesquels nous devons travailler. Alors là aussi, on s'évertue de non point de nous différencier par rapport aux camarades du programme commun, mais nous pensons qu'ils se trompent complètement quand ils disent que la crise, il est possible de la résoudre simplement en développant la consommation populaire. Disons que c'est prendre les gens pour des imbéciles. On pense que le problème prioritaire actuellement, c'est de lutter à la fois, encore une fois, contre la politique d'austérité et contre l'augmentation du chômage. C'est en même temps essayer et d'imaginer, eh bien, de nouvelles formes de contestation en ce qui concerne l'emploi. Il y a un mot d'ordre qui a été lancé par exemple par les camarades du BDOUP, qui est celui de l'emploi pour tous. Qu'est-ce que c'est l'emploi pour tous? Eh bien, c'est quand, par exemple, une entreprise décide de diminuer les heures de travail. Eh bien, c'est pour l'ensemble des ouvriers refuser que des personnels soient licenciés. C'est de dire, eh bien, tout le monde reste au boulot, mais travaille moins. Au lieu de travailler 45 heures, on travaille 36 heures, par exemple. Et tout le monde reste payé au même tarif. Bon, cette revendication est à la fois une revendication tactique tout à fait adaptée à la période et en même temps une revendication stratégique qui remet fondamentalement en cause le système. Une revendication qu'il ne peut pas assimiler. Parce que vous pensez bien que diminuer le temps de travail, c'est en même temps permettre aux gens de faire autre chose. D'imaginer une vie différente, de recomposer la vie quotidienne. C'est donc, si vous voulez, c'est une piste de travail que je vous donne. On a essayé de la populariser depuis le début de l'année, sans grand succès, il faut bien l'avouer. Et pas au PSU, mais sur un plan plus global, dirais-je. Parce qu'il ne suffit pas de parler d'autoréduction, puisque ça n'est qu'un des aspects de l'autoréduction. Il faut encore qu'il y ait des structures intermédiaires qui prennent en charge ces luttes d'autoréduction. Les luttes d'autoréduction ne vont pas se faire comme ça. Il faut qu'elles soient prises en charge, tout au moins par certaines structures syndicales, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé en Italie. Parce que c'est la gauche syndicale, ou une partie de la gauche syndicale, qui a réussi à imposer ces luttes qui sont devenues tellement exemplaires. Enfin, si vous voulez, je vous indique un certain nombre de pistes de réflexion. Ce que je veux dire, c'est que, à notre avis, la crise va durer. Encore une fois, c'est un moment incertain où deux adversaires sont en présence, il n'y en a aucun qui peut gagner. Il est clair que s'ils pouvaient gagner, il y a longtemps qu'on serait sous la botte. On s'y achemine doucement, lentement, et ça risque d'être d'autant plus rapide qu'encore une fois, des grands dirigeants du mouvement ouvrier comme Segui ont jusqu'à déclarer que la CGT n'est pas des inconditionnels de la solidarité ouvrière. Je crois que ça, c'est quelque chose que les travailleurs n'oublieront pas. Bon, voilà. Mais cela dit, dire comment elle va évoluer, on n'en sait trop rien. Je crois que c'est difficile de... Oui.
Tu ne penses pas qu'on risque d'arriver à une opposition avec la gauche classique, une opposition tout à fait ouverte sur le plan politique?
Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par opposition ouverte?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a des partis de gauche et d'extrême gauche qui marchent plus ou moins ensemble, mais est-ce que justement avec... Enfin, juste la déclaration de Segui et juste sur les problèmes de comment dire de lutte revendication avant tout au niveau des salaires avant toute chose et pas s'occuper du tout du reste et suivant les analyses que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas qu'on risque d'arriver à une scission entre gauche et gauche révolutionnaire telle que il y aura deux camps avec d'un côté...
Bon, d'abord deux choses. Je crois que la scission, elle existe de fait. Enfin, nous nous évertuons depuis un an de pratiquer difficilement ce qu'on a appelé l'unité populaire. Je sais bien que cela soulève de très nombreuses difficultés et de très nombreuses controverses. Nous avons encore donné des exemples à la limite du possible de cette unité, puisque vous savez qu'on a participé lundi, je n'ai pas malheureusement participé à cette réunion, je n'ai pas non plus eu connaissance exactement de ce qui y avait été dit, mais vous avez pu lire comme moi dans la presse qu'on a tout fait pour essayer d'obtenir au moins une condamnation par l'ensemble de la gauche communiste, tout au moins, des arrestations arbitraires de nos camarades. Bon, on a dû claquer la porte parce que ils sont même pas allés jusque-là. Cela dit, ça n'est pas parce que Marchais est une brute épaisse, excusez le mot, sur le plan intellectuel, et que les dirigeants communistes se trompent et utilisent la riposte gouvernementale contre l'extrême gauche, contre nous, pour évidemment évacuer tout ce qui les gêne, que nous n'existons pas sur le plan politique. Disait Le Monde ce soir, jamais depuis la manifestation d'Auvernay, l'extrême gauche n'a été aussi présente qu'hier à l'occasion de la manifestation. Et je crois que c'est vrai, c'est fondamental, c'est très important. Ça n'est pas parce que Segui ou Marchais disent que nous sommes des rigolos que nous n'existons pas. Le mouvement autogestionnaire est une réalité, que M. Marchais le veuille ou non. Et que M. Marchais le veuille ou non, nous continuons de penser que dans la période actuelle, ce qui compte, c'est de lutter de manière unitaire contre ce qui nous paraît fondamental, c'est-à-dire la politique d'austérité et l'augmentation du chômage. Et nous continuerons contre vents et marées à lutter dans ce sens. Évidemment, on pourrait envisager de retourner nos faibles... Je ne dirais pas armes, parce que s'il y a quelqu'un des renseignements généraux, ils vont encore dire qu'on a des armes cachées. Enfin, disons, nos arguments politiques contre le Parti communiste ou le Parti socialiste. Parce que c'est pas en leur tapant dessus que finalement on arrivera à descendre l'adversaire. On continuera d'essayer de trouver les meilleures formes d'unité possibles, tout en mettant sur la place publique les divergences, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Et je ne pense pas que cet étalement sur la place publique de nos divergences contribue à nous laminer. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Regardez encore une fois ce qui s'est passé hier. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui sont absolument écœurés. Les réactions des travailleurs dans les boîtes également, devant cette phrase que j'ai rappelée à plusieurs reprises de Segui, nous ne sommes pas des inconditionnels. Quand on connaît le passé antimilitariste du Parti communiste et du Parti socialiste, devant ce passé, le roi est allé jusqu'à dire que c'était des fautes de jeunesse. Il faut le faire. Et dans les casernes, là où il y a des militants communistes qui militent dans les comités de soldats, et où les camarades qui travaillent avec eux du parti leur disent « Mais comment expliquez-vous ça ?» Ils répondent, ils sont tellement emmerdés qu'ils répondent « Oh, tu sais, Marché, il est fatigué. » Ça en dit long sur la manière dont ils sont gênés. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des divergences, mais nous, en tout cas en ce qui nous concerne, on est farouchement décidés à continuer à nous opposer contre vents et marées, contre ce qui nous paraît fondamentalement, encore une fois, dans la période actuelle, c'est-à-dire l'augmentation du chômage et de l'austérité. Je crois que c'est clair sur le plan politique. Oui ?
Pour revenir à la crise d'ensemble du système capitaliste, bon, l'élément le plus important, c'est pas le seul, mais le plus important, c'est le capitalisme des États-Unis. D'une part, la crise a commencé par là, elle s'est étendue ensuite à l'Europe occidentale. Deuxièmement, c'est la force essentielle du capitalisme impérialiste. Or, si on aborde la question de la lutte ouvrière, il faut déjà tenir compte qu'aux États-Unis, il n'y a pas de parti ouvrier, donc, et à plus forte raison de parti révolutionnaire, donc on n'est pas en présence d'une possibilité de stratégie de la classe ouvrière face au capitalisme, jusqu'à présent. Dans ces conditions, même si en France et en Italie, dans quelques autres pays, une stratégie révolutionnaire commence à passer face au réformisme, face au PCF en particulier, et au PC italien, et au PS, les deux pays, il ne faut pas oublier, et là c'est une question que je pose, mais je n'ai pas de réponse pour ma part, pour dans l'immédiat bien entendu, c'est que les solutions à la crise, tous les capitalistes cherchent à la donner, mais en premier lieu le capitalisme des États-Unis. Et il faut replacer la crise dans son contexte mondial et donc aussi la possibilité pour le capitalisme de trouver une issue, ou du moins de chercher une issue mondiale, et d'abord des États-Unis, et bien entendu le problème du mouvement ouvrier mondial, et non pas seulement français ou français et italien, face à la bourgeoisie, c'est-à-dire dans cette lutte entre les deux classes, elle est à l'échelle des grands pays impérialistes. Ben, est-ce que j'ai bien fait comprendre ma question ?
Ben, je ne vois pas très bien où est ta question. Tu affirmes, si tu veux, que finalement, il n'y a aucune issue possible parce qu'il n'y a pas de classe ouvrière aux États-Unis. C'est en gros ce que tu dis.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de classe ouvrière aux États-Unis, d'abord. Il ne faut pas exagérer.
Enfin, qu'il n'y a pas de classe... S'il y a une classe ouvrière, mais il n'y a pas de mouvement révolutionnaire.
Et de parti ouvrier, simplement.
Non, je ne comprends pas très bien où tu veux en venir. Finalement, ta proposition est sans issue. C'est ça que
La situation peut être aussi sans issue, j'en sais rien. Mais
c'est ça que je veux dire.
La
situation est finalement sans issue. C'est ça que
j'ai pas dit forcément ça. Je pose simplement la question qu'il ne faut pas se boucher les yeux, que le capitalisme américain peut trouver peut-être une solution à la crise, avec affrontement ou non avec la classe ouvrière de son pays, je ne sais pas, c'est une question à voir. Qu'est-ce qu'il se passera dans ces conditions, même si nous avançons et nous portons certains coups au capitalisme? Est-ce que la solution de cette crise qui est longue ne peut pas venir du capitalisme des États-Unis, de la même manière que la crise est venue, elle, des États-Unis?
Oui, je comprends ta question. Bon, c'est un débat qui est ouvert depuis une année à peu près entre les partisans d'une thèse du super-impérialisme américain, c'est-à-dire qui disent en gros, c'est vraiment la thèse de Vigier, Jean-Pierre Vigier, qui dit les États-Unis ont subi un relatif déclin, ils se sont fait virer du Vietnam et en général de pratiquement tout le sud-est asiatique, puisque maintenant vous savez qu'ils sont limités à la première ligne des archipels, le Japon, Okinawa, etc. Mais que les États-Unis sont en train de tout faire pour récupérer leur hégémonie et qu'on s'achemine vers un super impérialisme américain avec risque de conflagration mondiale, d'une troisième conflagration mondiale. Bon, ça c'est une thèse. Il y en a une autre, qui est celle de Samir Amin, Alexandre Fer, Mahmoud Hussein et autres, qui ont écrit La crise de l'impérialisme, qui disent que l'impérialisme est en crise et que l'échange, il y a deux alternatives possibles. Il y a ce qu'il appelle l'hypothèse 1984A et l'hypothèse 1984B. Alors, quelles que sont ces hypothèses pour ceux qui ignorent le bouquin, 1984, c'est par référence au bouquin d'Orwell qui avait défini une société complètement totalitaire. Enfin, de toute façon, ce qu'il veut dire, c'est qu'on s'achemine vers un modèle totalitaire fasciste et qu'il y a deux hypothèses. Alors, l'hypothèse A, c'est une accentuation des distorsions entre les pays du centre et les pays de la périphérie. Des distorsions qui peuvent aller jusqu'à la disparition physique de ces pays de la périphérie. La deuxième hypothèse, il les a peut-être inversés, mais peu importe, pour l'explication ça va comme ça. La deuxième hypothèse, c'est qu'on va assister à une nouvelle division internationale du travail, les pays du centre faisant surtout de la haute technologie, et les pays, la périphérie, récupérant toutes les activités polluantes, l'automobile, etc. Bon, je crois que tout ça, ce sont de beaux schémas intellectuels, et qu'en réalité, encore une fois, la crise est globale. Il y a à la fois crise de l'impérialisme et crise du capitalisme à l'échelle internationale, ce qui ne revient pas tout à fait au même. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans l'article que j'ai rédigé dans Critique, contrairement aux analyses, si tu veux, qui misent tout sur le caractère international de la crise, j'ai dit que on ne pouvait pas continuer à faire l'économie d'une analyse de la spécificité française de la crise. Et je crois qu'en cela, l'article que tu citais tout à l'heure de Guibert est tout à fait remarquable. Il est très important je crois que c'est ça maintenant qui est nécessaire, de faire des analyses secteur par secteur, des analyses nationales, concrètes, pour voir où on atterrit. Alors, te répondre, est-ce que on va vers une nouvelle hégémonie américaine, ou est-ce qu'on va vers l'hégémonie de nouveaux pays impérialistes? Je t'avoue que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une crise globale à la fois de l'impérialisme et à la fois des capitalismes à l'échelle nationale. Cette crise est tout à fait globale, à la fois économique et idéologique.
Oui, moi, il me semble que dans ton explication de l'inflation, tu as oublié un facteur qui me semble pourtant essentiel,
oui.
C'est le problème des multinationales.
Oui, je l'ai fait sciemment.
Bien.
Je l'ai fait sciemment parce que je ne voulais pas déflorer le sujet de la personne qui va me succéder. Tu as parfaitement de raison de me dire qu'effectivement, un facteur fondamental de l'inflation au plan international actuellement sont bien sûr les firmes multinationales. C'est en gros la thèse qu'a développée, à juste titre à mon avis, qui est juste Charles Levinson, de l'inflation par les investissements. C'est-à-dire que les investissements nécessaires pour le redéploiement, dont on parlait tout à l'heure, sont tellement importants qu'ils sont obligés de les faire par autofinancement. Autofinancement suppose une augmentation forte des prix, et c'est un facteur d'inflation extrêmement important. C'est ce qu'on appelle inflation par les investissements. Je pense avoir répondu...
Je pense que pour la clarté de l'exposé,
oui.
Si tu veux, je pense qu'il aurait été intéressant que tu abordes quand même un petit peu le problème, par exemple, suivant, qui est que jusqu'à une certaine période, les États avaient une certaine possibilité de contrôle sur leur économie, avec un certain degré de planification, les problèmes des impôts, etc., et que la croissance des multinationales a chamboulé cet aspect-là. Le deuxième point, c'est le problème de la structure monopolistique des prix, qui, je crois, joue un rôle essentiel aussi dans les problèmes de l'inflation. Le troisième point, c'est ce dont tu parlais, et c'est l'apparition des masses des euro-dollars, etc., dont tu n'as même pas cité le nom ce soir.
Oui, je crois que, encore une fois, c'est... Je veux bien citer les noms, si tu veux, mais ce qui compte, c'est l'explication du phénomène, moins que les noms. Enfin, je veux bien. Je veux bien. Bon, écoutez, cela dit, je crois qu'on peut arrêter. Il y a d'autres questions ? Oui, pardon.
Je voulais te demander si tu pouvais dire un mot des différents plans de réforme du système monétaire international et sur leur signification politique.
Sur les différents plans de réforme actuels. Je crois que ce qui caractérise la période, c'est que les plans de réforme sont pratiquement inexistants. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'idées qui sont véhiculées depuis un certain nombre d'années, mais qui ne sont susceptibles d'avoir aucune application concrète. Les États-Unis souhaitent évidemment préserver, comme je le disais tout à l'heure, les hiérarchies existantes, et alors que les pays comme des pays comme la France, comme l'Allemagne ou comme le Japon souhaiteraient un nouvel équilibre, mais on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur l'établissement d'une nouvelle monnaie universelle, par exemple. Je crois que c'est ça le problème fondamental. Alors bon, vous parlez techniquement de projet, je crois que ça n'a pas grand sens, si tu veux. Le problème, c'est que ce qu'il faut que vous reteniez, à mon avis, de la séance aujourd'hui, c'est que il y a un déséquilibre complet depuis 3 années, que ce déséquilibre probablement va persister dans les années qui viennent, et qu'il n'est que la manifestation d'une crise beaucoup plus globale. Il est une manifestation et non point une cause de la crise. La cause est ailleurs. Je crois que c'est ça qui est fondamental.